Chapitre 43. Lorsqu'elle sortit du pavillon, Callan eut un mouvement de recul quand elle vit l'armée de Jagang. Jusque-là, elle l'avait aperçue de loin et la distance arrondissait un peu les angles. De près, ce spectacle vous glaçait les sangs. Le camp s'étendait à l'infini, de quelque côté qu'on regardât. Alors qu'il grouillait d'activité, le démontage des tentes, le chargement des chariots, le regroupement des diverses unités avec un peu partout des mouvements de cavalerie, on aurait cru contempler les ondulations moutonneuses d'un gigantesque océan noir. Dans cette marée humaine, pas un seul visage ne semblait amical, ou plus modestement d'une bienveillante neutralité. Tous les hommes affichaient clairement leur désir impérieux de nuire à autrui par tous les moyens possibles, la violence occupant la première place sur leur liste. Mettre à sac, violer et tuer, le triptyque sacré de ces soudards. Tous les malheureux qui croiseraient leur chemin risquaient de le payer cher. En regardant mieux, Callan remarqua des différences entre ces bouchers. À proximité de l'empereur, les guerriers, plus disciplinés et organisés, ressemblaient presque à des soldats ordinaires. Calmes et mesurés, ils portaient des armes soigneusement entretenues. Bref, ils ressemblaient comme des frères aux deux gardes que Callan avait abattus. Le cercle suivant était composé d'une multitude de solides gaillards, vêtus d'une cuirasse protégée par une cotte de mailles. Presque tous ces hommes-là arboraient une hache de guerre aux tranchants recourbés. Les arbalétriers, les hommes d'épée et les piquiers formaient le troisième cercle de spécialistes. Dans leur rang, il régnait encore un semblant de discipline. Bien qu'ils fussent vêtus d'uniformes différents selon le corps auquel ils appartenaient, tous ces soldats étaient grands, musclés et équipés de ce qu'on pouvait trouver de mieux dans l'Ancien Monde. Le noyau dur de l'armée de l'ordre. Des combattants d'élite capables de balayer en un clin d'œil l'opposition la plus résolue. Une véritable hiérarchie existait dans les premiers cercles. Des officiers donnaient des ordres aux messagers, aux éclaireurs et aux soldats du rang. Pendant ce temps, d'autres gradés étudiaient des cartes d'état-major sous des hauts vents de fortune. De temps en temps, un de ces stratèges venait s'entretenir brièvement avec l'empereur. Le cauchemar commençait au-delà du troisième cercle. Car le gros de l'armée était composé de barbares qu'on aurait tout aussi bien vus en bandits de grand chemin ou en pensionnaires des plus ignobles prisons des deux mondes. Bardés d'armes faites de briques et de brocs, mais pas moins mortels pour autant. Ces tueurs ne s'embarrassaient pas d'uniformes, et on eût dit en les regardant qu'il s'agissait d'une cohorte de condamnés de droit commun préparant une émeute. Crasseux, puants, bagarreurs au point de s'égorger entre eux, ces déchets d'humanité n'avaient qu'un point commun avec les assassins plus polissés des premiers cercles, la volonté farouche d'écraser sous leurs bottes tout ce qui pouvait faire obstacle au triomphe de leur foi absurde. Près du pavillon, dans un îlot de calme relatif, Callan eut le sentiment d'être une naufragée recroquevillée sur un minuscule radeau cerné par des centaines de requins. Soudain, elle remarqua un détail étonnant au sein de ce qu'elle avait baptisé le premier cercle. Des femmes allaient et venaient parmi les combattants. Au début, elle ne les avait pas distinguées de la masse à cause de leurs robes aussi grises que la plupart des uniformes. À la façon dont elle surveillait tout le monde, Callan supposa qu'il s'agissait de sœurs bombardées gardes du corps de l'empereur. Quelques hommes désarmés scrutaient également les environs, des sorciers, très probablement. Les pratiquants de la magie ne regardaient jamais bien longtemps l'endroit où se tenait Callan. La preuve qu'il oubliait dès qu'il l'avait vu. Sinon, il se serait intéressé un minimum à une si étrange prisonnière. À part Ulicia, Armina et Jagang, personne n'avait conscience de l'existence de Callan. Un peu partout dans le camp, de très jeunes gens désarmés s'affairaient à démonter les tentes ou à charger les chariots. Des prisonniers transformés en esclaves à n'en pas douter. Sans main-d'œuvre gratuite pour la décharger de l'intendance, une armée de cette taille ne pouvait pas se concentrer sur le meurtre, le viol et le pillage. Dans le périmètre de sécurité du pavillon impérial, Callan repéra des tentes apparemment très particulières. Alors que des esclaves attendaient de les démonter, des soudards en faisaient sortir de longues colonnes de jeunes femmes aux vêtements bien souvent déchirés. À la façon dont tous les hommes les reluquaient, il n'était pas difficile de deviner la fonction de ces malheureuses dans le camp de l'ordre. Enlevées au gré des conquêtes de la grande armée de Jagang, Ces jeunes beautés constituaient le bataillon de catins d'un gigantesque bordel ambulant. Un vacarme épouvantable montait du quatrième cercle. En revanche, à proximité du pavillon, les soldats travaillaient en silence. L'accès des esclaves étant strictement régulé dans cette zone, des guerriers se chargeaient du démontage. Avec leurs ceintures et leurs bandoulières cloutées, leurs cottes de mailles et leurs visages le plus souvent tatoués, ces militaires ressemblaient plus à des démons qu'à des êtres humains. Bien qu'ils fussent capables de réflexion et formés à la discipline, on sentait qu'ils avaient opté pour une forme élaborée de sauvagerie. La brutalité leur tenait lieu d'étoile du berger, et ils refusaient obstinément de voir tout ce qui aurait pu les en détourner, ne serait-ce qu'un instant. Attentifs aux ordres que lançaient leurs officiers, ils travaillaient en silence, préparant avec une froide efficacité le départ de la grande armée de l'ordre. Les bouchers du dernier cercle ne se souciaient ni de l'ordre ni de l'efficacité. En paquetant leurs affaires au hasard, ils laisseraient derrière eux une montagne de détritus et d'objets volés qui n'avaient pas eu l'heure de leur plaire. Que leur importait le respect de la nature? Quand on avait mission d'évangéliser les infidèles, les détails pouvaient être laissés de côté ou confiés aux bons soins de races inférieures qui existaient précisément pour ça. Voyant la réaction de Kalan face aux hordes de Jagang, Ulyssia se pencha vers elle et lui souffla à l'oreille.
« Je sais ce que tu éprouves. »
Kalan n'en crut pas un mot. Instruite par l'expérience, elle s'abstint de tout commentaire. Tapie dans l'esprit de la sœur, Jagang devait brûler d'envie de savoir ce que disait la prisonnière dès qu'il lui tournait le dos.
« Ce que j'éprouve n'a plus d'importance, »
dit Kalan aux deux sœurs.
« Jagang fera de moi ce qui lui chantera. »
Elle tâta sur sa joue la plaie laissée par une des bagues de l'empereur. Bonne nouvelle, le sang ne coulait plus.
« Il l'a assez souvent répété, non ?»« Et il tiendra parole, le connaissant, »
souffla Ulyssia.
« Nous sommes toutes sur la même galère, »
marmonna Armina.
« Comment avons-nous pu être si stupides ?»
Entourée d'un petit groupe d'officiers, Jagang approchait des prisonnières. Derrière l'empereur et ses aides de camp, des soldats tenaient par la bride plusieurs chevaux déjà scellés. Plus loin, d'autres hommes avaient déjà entrepris de vider le pavillon. Les coffres, les tables, les fauteuils et d'autres éléments d'intérieur seraient chargés dans des chariots spéciaux. Ensuite, les grands poteaux et la toile suivraient le même chemin. Sous l'œil ébahi de Kalan, en quelques minutes, il ne resta plus rien du camp privé de l'empereur. L'air très satisfait, Jagang fit signe à un soudard de tendre les rênes d'un cheval à Kalan.
« Aujourd'hui, tu chevaucheras avec moi. »
La prisonnière se demanda ce qu'elle ferait le lendemain, mais elle s'abstint de poser la question. À l'évidence, l'empereur avait un plan pour elle. Incapable de le deviner, Kalan ne se faisait pas d'illusions sur le fond des choses. Rien de bon ne l'attendait. Après s'être hissée en selle, elle étudia la marée de guerriers autour d'elle, évaluant ses chances de réussite si elle galopait droit devant elle. Ne la voyant pas, du moins pas assez longtemps pour se souvenir d'elle, les soudards n'étaient pas un véritable obstacle. Si elle chevauchait parmi eux, ils ne s'en apercevraient pas. Si troublante que fût cette idée, elle pouvait avoir ses avantages à l'occasion. Les soldats prendraient-ils le risque d'être blessés pour arrêter un cheval sans cavalier lancé au galop? Kalan en doutait fort. Ulyssia et Armina montèrent également en selle, chacune sur un flanc de la prisonnière, histoire de la dissuader de s'enfuir. Avec le fichu collier, les deux sœurs n'auraient aucun mal à arrêter la prisonnière, sans même avoir besoin d'être près d'elle, comme elle l'avait très récemment appris. Kalan avait toujours mal partout à cause de sa chute brutale. Si Jagang n'avait pas décidé de lui allouer une monture, elle ne serait certainement pas allée très loin à pied. La marée noire d'hommes s'était déjà mise en mouvement. À la lueur de l'aube, des centaines de milliers d'armes brillaient faiblement comme une fine bande d'écume sur la crête d'une vague. L'armée de l'ordre venait de se remettre en chemin, prête à semer la mort et la désolation sur son passage. Sous un soleil de plomb, Kalan chevaucha entre les deux sœurs, dans les rangs de la garde personnelle du maître de l'ordre. La horde avançait vers le nord. Accablée, Kalan pouvait aisément suivre sa progression sur le dos de sa monture. Si désespérée que soit sa situation, Elle se réjouissait de faire un peu d'équitation et de ne pas avoir besoin de porter sur son dos le paquetage des deux sœurs survivantes. Le brouhaha des conversations ne tarda pas à s'éteindre. Lors d'une marche forcée, il n'était pas conseillé de gaspiller son souffle en vain bavardage. Sous la chaleur accablante, les hommes les plus solides avaient du mal à supporter le poids de leur barda. Mais il n'était pas question de s'arrêter un peu pour récupérer. Quand des centaines de milliers d'hommes, voire 1 ou 2 millions, se mettaient en mouvement, tous ceux qui ne suivaient pas le rythme risquaient de finir sous les roues d'un chariot, les sabots d'un cheval ou les bottes de leurs camarades. Toute la journée, des chariots ou des cavaliers circulèrent dans les rangs pour distribuer de la nourriture. Placés à intervalles réguliers, d'autres véhicules transportaient les précieuses réserves d'eau. Dans leur sillage, des centaines de soldats marchaient en colonne par deux, afin de recevoir leur ration de la journée. Aux alentours de midi, un petit chariot rejoignit la formation privée de l'empereur. Tous les officiers reçurent un repas chaud. Les sœurs et Callan eurent droit au même menu. Un morceau de viande salée et spongieuse calé entre deux tranches d'un pain plat insipide. Callan trouva un goût douteux à la préparation. Son estomac criant famine, elle la dévora pourtant à belles dents. Au crépuscule, alors que l'épuisement menaçait tout le monde, Callan constata que l'énorme colonne avait couvert beaucoup plus de distance qu'elle l'aurait cru. Couverte de poussière, elle espéra un moment qu'il pleuve, puis se ravisa. Patauger dans la boue aurait été encore plus désagréable. La prisonnière ne cacha pas sa surprise quand elle aperçut devant elle le pavillon de l'empereur et les tentes de ses principaux officiers. Sur les poteaux, les étendards battaient au vent comme pour souhaiter la bienvenue au maître de l'ordre. Bien entendu, ce miracle avait une explication très simple. Les chariots contenant le pavillon, les tentes plus petites et tout l'équipement avaient pris de l'avance, menant un train d'enfer, puis ils s'étaient arrêtés assez tôt pour qu'on puisse monter le camp. La colonne s'étendant sur plusieurs lieues, ces véhicules n'avaient même pas eu besoin de se priver de sa protection. Tout était une affaire d'organisation, le point délicat restant de choisir chaque soir le bon emplacement pour le pavillon. Avec de l'entraînement, ça devenait assez facile et l'empereur au crépuscule arrivait immanquablement devant son campement personnel où tout l'attendait comme lorsqu'il en était parti. Des quartiers de viande rôtissaient déjà sur toute une série de broches. L'odeur de cuisson fit monter l'eau à la bouche de Callan, de nouveau affamé. Un peu partout, de délicieux ragoûts chauffaient dans d'énormes chaudrons. Industrieux comme des fourmis, des centaines d'esclaves s'affairaient à préparer le repas délicieusement raffiné pour une armée en campagne de tous les membres du premier cercle. Jagang sauta à terre devant l'entrée du pavillon. Aussitôt, un prisonnier vint prendre sa monture par la bride. Dès que les sœurs et Callan furent descendus de selle, d'autres très jeunes hommes vinrent prendre en charge leur monture. Ulicia et Armina, entraînant Callan, suivirent Jagang, qui franchit fièrement l'entrée de son fief. En passant devant l'homme qui tenait le rabat écarté, Callan constata qu'il avait la peau lustrée de sueur. Le type empestait, sans doute à cause de l'effort fourni pour ériger le camp. À l'intérieur, le pavillon ressemblait très exactement à la demeure confortable que Callan avait quittée le matin. L'illusion était si parfaite que la prisonnière poussa un petit cri de surprise.
« Pourquoi est-il invisible, à part pour nous ?»
demanda-t-elle soudain Jagang à Ulicia. Agacé, il prit la sœur par les cheveux et la tira vers lui, la contraignant à gémir de douleur. Quelques esclaves tournèrent la tête, se demandant pourquoi une des sœurs de l'obscurité couinait ainsi. Comme les soldats, ces hommes et ces femmes ne voyaient pas la mère inquisitrice.
« C'est le sort d'oubli, Excellence, la chaîne de flammes !»
Malgré sa position inconfortable, la sœur parvenait à parler d'un ton assuré.
C'est l'objet même de ce sortilège, rendre une personne invisible. Selon moi, il vise à créer un espion impossible à détecter. Nous l'avons utilisé pour permettre à Callan de voler les boîtes d'Ordaine sans se faire prendre par les gardes.
Callan eut la nausée à l'idée d'avoir été manipulé ainsi. De quel droit les sœurs de l'obscurité l'avaient-elles privé de son identité et de sa mémoire? Comment pouvait-on mépriser ainsi la vie d'autrui? 2 jours plus tôt, Callan pensait être une esclave amnésique sans importance. Mais tout avait changé. Désormais, elle savait qu'elle se nommait Callan Amnel et portait le beau titre de mère inquisitrice, quoi que cette fonction puisse être. des informations qu'elle avait oubliées à cause des machinations de ses maudites sœurs.
« Je sais comment fonctionne ce sort !»
dit Jagang sans lâcher sa victime.
« Dans ce cas, explique-moi pourquoi l'aubergiste a vu Kalan et la gamine à Casca, elle aussi avait conscience de son existence. »«
Excellence, je ne connais pas la réponse !»
gémit Ulyssia. Jagang lui tirant un peu plus fort sur les cheveux, elle fit mine de lui saisir les poignets pour se dégager. Se souvenant qu'il n'était jamais bon de résister à cet homme, elle renonça, acceptant la posture ridicule et douloureuse qu'il la forçait à adopter.
« Bien, je vais reformuler la question, histoire qu'elle s'imprègne dans ton cerveau obtus. Quelle idiotie avez-vous encore faite ?»«
Mais, Excellence !»«
Si vous n'aviez pas commis une bourde, l'aubergiste et la gamine n'auraient pas fait exception à la règle. » « Armina et toi voyez Kalan parce que vous contrôlez le sort. Moi, j'ai été immunisé parce que je me tapissais dans votre esprit. Mais qu'en est-il des deux autres imbéciles ?»« Encore une fois, Ulyssia, qu'avez-vous fait de travers ?»«
Rien, Excellence, je vous le jure. »
Jagang fit mine à Armina d'approcher. Terrorisée, elle obéit, avançant à petits pas comme une très vieille femme.
« Veux-tu répondre à ma question ? Ou préfères-tu être envoyé sous les tentes comme Ulyssia ?»
Armina déglutit péniblement, les mains écartées pour former un dérisoire bouclier.
« Excellence, si confesser mes fautes pouvait m'épargner ce sort, je n'hésiterais pas, mais Ulyssia dit vrai, nous n'avons pas commis d'erreur. »
Jagang baissa de nouveau les yeux sur Ulyssia.
« Allons à cette fadaise !» « Votre sortilège ne fonctionne pas totalement, nous en avons la preuve, et vous continuez à raconter des âneries. Si vous ne vous étiez pas trompé, il n'y aurait pas d'exception, c'est évident !»
Des larmes aux yeux, tant la souffrance était forte, Ulyssia tenta en vain de secouer la tête.
« Excellence, ça ne marche pas ainsi !»«
Que veux-tu dire, Bécasse ?»«
Le sort d'oubli. Une fois jeté, il agit seul. C'est lui qui travaille, en d'autres termes. » Personne ne le contrôle car il se gère tout seul. Mieux encore, aucune intervention extérieure n'est possible. Les protocoles se déroulent d'eux-mêmes et je serai incapable de vous dire en quoi ils consistent. C'est le même principe qu'un sort dit « préparé » ou « à retardement ». Il faudrait être fou pour oser interférer. Le sort d'oubli mobilise une quantité de pouvoir que nous ne sommes pas en mesure de réguler et encore moins d'altérer, vous devez vous en douter. C'est la vérité, Excellence.
Dit Armina.
Nous connaissions le résultat probable du sortilège, pas sa façon de fonctionner. Pourquoi aurions-nous voulu le modifier ? L'objectif visé nous convenait et nous n'étions pas en mesure de l'altérer. Dans ce cas, qu'avons-nous pu faire de travers ? Nous avons lancé le sort, Excellence, dit Ulyssia. Après avoir invoqué la toile de vérification, nous avons laissé la magie agir. Nous ignorons pourquoi il y a eu des exceptions. « Et nous sommes aussi surprises que vous. »
Jagang foudroya Armina du regard.
« Pouvez-vous au moins arranger les choses ?»«
Sans savoir quel est le problème. Excellence, c'est impossible. De plus, nous ne sommes pas sûrs qu'il y en ait vraiment. Les exceptions sont peut-être parfaitement normales. Face à un sortilège si complexe, nous devons reconnaître notre impuissance. Si quelque chose cloche et rien n'est moins sûr, le problème nous dépasse. » « Je penche pour une anomalie aléatoire. »
dit Ulyssia quand le silence de Jagang devint trop pesant pour ses nerfs.
« C'est fréquent avec la sorcellerie. Le résultat d'un moment d'inattention des créatures du sortilège, rien que de très banal. Songez que ce sort est vieux de plusieurs milliers d'années. En outre, il n'a jamais été mis à l'épreuve à cause de son potentiel destructeur. Donc les défauts n'ont pas pu être corrigés. »
Jagang ne parut pas convaincu.
« Vous avez fait une bourde, j'en mettrai ma main au feu. »«
Non, Excellence, même les antiques sorciers n'auraient pas pu influencer le sortilège une fois lancé. La magie d'Orden a été spécifiquement conçue pour s'opposer à ce sort, s'il devait jamais être jeté. Rien d'autre ne peut l'altérer. »
Kalan tendit tout particulièrement l'oreille. Pourquoi les sœurs avaient-elles lancé un sort pour voler les boîtes d'Orden, à savoir la contre-mesure spécifique du sortilège en question ? peut-être pour s'assurer que nul ne neutraliserait la chaîne de flammes. Mais ça ne tenait pas vraiment debout, car... Sans crier gare, Jagang lâcha Ulysia, puis la poussa sans ménagement, la faisant s'étaler sur le sol. D'instinct, la sœur porta les mains à son cuir chevelu en feu. Jagang marcha de long en large en réfléchissant à ce qu'il venait d'apprendre. Puis il aperçut quelqu'un sur le seuil du pavillon et lui fit signe d'approcher. Plusieurs esclaves à demi nus entrèrent et firent le service du vin. De jeunes garçons les remplacèrent, apportant des plateaux chargés de plats encore fumants. Sans accorder d'attention à cette piétaille, l'empereur continua à méditer en faisant les 100 pas. Lorsque la table fut prête, il s'assit et regarda les deux sœurs d'un œil morose. Alignés derrière lui, les serviteurs attendaient son bon vouloir. Se décidant à manger, Jagang s'attaqua à main nue à un jambonneau à peine sorti du feu. Le déchiquetant sans se brûler, il entreprit de le dévorer tout en étudiant ses 3 prisonnières. Allait-il les laisser vivre ou les condamner à mort? Bien malin qui aurait su le dire. Quand il se fut lassé du jambonneau, il sortit le couteau accroché à sa ceinture et se coupa une grande tranche de rôti de bœuf. La piquant au bout de la lame, il la tint en suspension dans l'air comme s'il n'avait pas décidé de son sort. Du sang coula le long de la lame puis sur l'avant-bras du maître de l'ordre.
« Une meilleure façon d'utiliser son couteau. Tu ne trouves pas, Kalan ?»
La prisonnière ne put résister à l'envie de répondre.
« Pas à mes yeux, et je regrette d'avoir raté ma cible. Si j'avais été plus précise, nous n'aurions pas cette absurde conversation. »«
Peut-être bien, oui. »
fit Jagang avec un sourire énigmatique. Après avoir bu une gorgée de vin, il mordit à belles dents la tranche de viande saignante. Puis, il regarda de nouveau Kalan.
« Déshabille-toi. »«
Pardon ?»«
Déshabille-toi, complètement. »
« Non. Si tu veux me voir nu, il faudra m'arracher mes vêtements. »«
C'est prévu, mais plus tard et juste pour le plaisir. »« Allons, obéis. »«
Pourquoi ?»«
Parce que je te l'ordonne. »«
Pas question. »
Le regard de cauchemar se riva sur Ulysia.
« Parle-lui des tentes de torture. »«
Pardon, Excellence ?»
« Dis-lui à quel point nous sommes doués pour plier les gens à notre volonté. Parle-lui du savoir-faire de nos bourreaux. »
Ulysia voulut s'exécuter, mais Kalan la devança.
« Pas de bavardage, passons plutôt aux travaux pratiques, qui s'intéressent au caquetage d'une vieille poule. Fais-moi souffrir, Jagang, et n'en parlons plus. »«
Ce n'est pas toi qui souffriras, ma petite chérie. »
Jagang s'empara d'un pilon d'oie et s'en servit pour désigner une jeune esclave derrière lui.
« C'est elle que je livrerai à mes bourreaux !»
Kalan regarda la pauvre fille, soudain blanche comme un linge, puis soutint le regard noir de Jagang.
« Je ne comprends pas ta stratégie, empereur. »
Jagang arracha avec les dents un gros morceau de viande et le mâcha sans se soucier du gras qui dégoulinait sur son menton.
« Dans ce cas, je vais t'expliquer. J'apprécie particulièrement une torture très subtile et très originale. Pour commencer, le bourreau pratique une petite incision, juste sous le nombril de la victime. »
Avec son pilon, l'empereur désigna le ventre de l'esclave.
« Petite, mais profonde, bien entendu. Ensuite... « Notre maître artisan introduit dans la plaie une paire de pinces jusqu'à ce qu'il puisse les refermer sur l'intestin du sujet. Ce n'est pas très facile à réaliser, d'autant moins que le cobaye a tendance à s'agiter sous l'effet de la douleur. Mais au bout d'un moment, l'affaire est réglée. Alors, le bourreau tire hors de son logement une petite partie de l'intestin. « Inutile de te dire que ce n'est pas très agréable quand on se trouve du mauvais côté des pinces. »
Comme s'il avait des regrets, Jagang prit un nouveau morceau de jambonneau.
« Si tu ne m'obéis pas, nous allons tous passer un moment sous une tente de torture. Avec l'aide de cette charmante petite, un de mes meilleurs bourreaux te fera une petite démonstration de ses talents. » Quel calvaire pour cette innocente gazelle! Et tout ça à cause de ton obstination? Pour ta peine, tu devras assister à la lente agonie de ta victime. Heure après heure, tu l'entendras hurler tandis que sa vie s'écoulera hors d'elle sous tes yeux. Pour corser les choses, lorsqu'il a extrait une longueur suffisante, le bourreau commence à enrouler l'intestin autour d'un bâton. Par souci d'ordre et de propreté, comprends-tu? À chaque phase du protocole, le maître d'œuvre marquera une pause et attendra que je lui dise de continuer. Moi, je te demanderai très poliment de bien vouloir te déshabiller. Si tu refuses, le bâton tournera, infligeant à la condamnée une souffrance qui dépasse ta pauvre petite imagination. Même si le sujet implore très vite qu'on l'achève, cette délicieuse taquinerie peut durer pendant des heures. Une façon de mourir atrocement lente et douloureuse. Mais à la fin, inévitablement, tu verras la mort voiler le regard de cette juvénile beauté. »
Kalan jeta un rapide coup d'œil à l'esclave. Pétrifiée, elle était maintenant plus blême qu'un cadavre. Jagang but une nouvelle gorgée de vin pour faire passer le jambonneau.
« Ensuite, tu verras la pauvre carcasse de cet idiote atterrir sur un tas d'autres, dans la charrette qui fait régulièrement la collecte des charognes à jeter aux ordures après interrogatoire. Mais les réjouissances ne seront pas finies. Mis en appétit par ce spectacle, je proposerai à Ulysia et Armina un choix qui ne leur demandera pas une très longue réflexion. Tu peux me croire. Allez servir sous les tentes, histoire de divertir mes hommes, ou tirer le meilleur parti du collier que tu portes autour du cou pour t'infliger l'équivalent de 1000 morts. J'ai bien dit l'équivalent, car elles auront ordre de ne pas te tuer au péril de leur propre vie, histoire de les motiver. »
Dehors, le brouhaha du camp continuait à déchirer la nuit. Sous le pavillon, il régnait à présent un silence de mort. Avant de continuer, Jagang s'offrit une voluptueuse bouchée de bœuf bien saignant.
« Lorsque nos deux amis seront à court d'imagination, après un sacré feu d'artifice, je t'en fiche mon billet. Je te frapperai longuement et presque amoureusement. Sans te tuer, ça va de soi. Puis je t'arracherai tes vêtements comme tu me l'as demandé. À toi de choisir, ma petite chérie. Mais dans tous les cas, tu te retrouveras nu devant moi. Alors, que préfères-tu? La version courte ou la longue? Décide-toi vite avant que je retire mon offre. »
Kalan comprit que toute résistance serait vaine. Luttant pour ne pas trembler, elle commença à déboutonner son chemisier.